Merci Yann pour l'introduction et merci pour l'invitation. Merci à tous et bonjour
à tous.
Donc je vais vous présenter un petit peu des aspects peut-être qu'Alain a déjà dit sur l'infection, les stratégies thérapeutiques mondiales, discuter un peu du VIH2 et puis vous présenter des résultats du laboratoire et comment on est arrivé à proposer peut-être des nouvelles idées. Donc la stratégie mondiale de lutte contre le VIH, c'est celle de traiter tous les patients. Le besoin d'un remède est toujours d'actualité pour guérir les patients infectés et aussi surtout pour arrêter la transmission. Donc la stratégie actuelle, c'est celle de traiter tous les individus infectés avec la stratégie 90-90-90 qui a été mentionnée. Mais on sait qu'il y a des problèmes d'accès au traitement, d'adhérence au traitement chez les patients qui y ont accès et aussi de toxicité des traitements qui font que ce n'est peut-être pas la stratégie la plus simple à mettre en place. Donc le vaccin reste un remède intéressant dans l'infection VIH. Deux types de vaccins peuvent être envisagés. Le vaccin thérapeutique, donc là on parlerait de guérison fonctionnelle, c'est-à-dire un virus indétectable. Bien sûr, on ne peut jamais prouver qu'il n'y a plus de virus, mais en tout cas, fonctionnellement, ça se passerait comme s'il n'y avait plus de virus. Donc, c'est quasiment la même slide qu'Alain, en fait, c'est assez remarquable. Donc, l'objectif ici, c'est d'induire des lymphocytes TCD8 cytotoxiques qui vont tuer les cellules infectées, d'induire des anticorps neutralisants à large spectre, de contrôler la charge virale pour empêcher la transmission à de nouveaux individus non infectés et éventuellement de permettre un arrêt du traitement par trithérapie. Et le pendant du vaccin thérapeutique, c'est le vaccin prophylactique chez les patients les individus non infectés. Ici, l'objectif, c'est d'induire des lymphocytes TCD8 cytotoxiques et des anticorps neutralisants qui résideraient au site anatomique de transmission du virus et donc afin d'empêcher l'infection. Donc ça, c'est une courbe de réplication du virus. On voit ici la charge virale en rond blanc et en ligne pleine, et le taux de CD4 en ligne pointillée. C'est vraiment une courbe de réplication classique chez une personne infectée non traitée, avec le déroulé en semaine puis en année. Et ce qu'on observe, c'est une pic de virémie, et puis une baisse de virémie pendant plusieurs années, et enfin une reprise de virémie à la fin de l'infection, avec un déclin fort des taux de CD4. Ce que je veux illustrer sur cette diapositive, c'est l'idée que le système immunitaire, en général, ne réussit pas à contrôler l'infection par le VIH1, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse immunitaire contre ce virus. C'est ce qu'on voit probablement dans les premières semaines après l'infection, puisqu'on voit un premier déclin rapide de CD4, et puis en fait, les CD4 remontent pendant la phase de latence clinique, et inversement pour la virémie, très rapidement, la virémie augmente, et puis elle diminue. Et en fait, ça corrèle aussi avec beaucoup de données d'immunologie qui montrent qu'il existe une réponse immunitaire qui est mise en place contre le VIH1. Mais vraisemblablement, la qualité de cette réponse immunitaire n'est pas adaptée et le système immunitaire, in fine, n'arrive pas à contrôler ce virus. Donc la question fondamentale à laquelle il faut répondre, c'est la suivante. Quelles sont les règles qui permettent d'induire une immunité protectrice en réponse au VIH? Une immunité qui permettrait sur le long terme de contrôler le virus. Et donc, pour répondre à cette question, il existe plusieurs modèles qui sont étudiés actuellement. Il y a la génétique humaine, CCR5 a été mentionné, le HLA brièvement, les polymorphismes. Les modèles simiens, certains modèles simiens sont intéressants pour ça. Les contrôleurs rares du VIH1. Et puis, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les patients infectés par le VIH2. Alors, qu'est-ce que c'est ce VIH2? Donc, pour vous présenter ce virus, je vais vous présenter un petit peu d'évolution et d'historique. Donc ça, ce sont les lentivirus de primates, en tout cas la plupart de ceux qui sont connus, et puis les virus qui ont donné des HIV chez l'homme. Donc on connaît bien HIV1 de type M et N, qui provient du chimpanzé. C'est le virus, évidemment, qui cause la pandémie mondiale et qui reste le problème clinique le plus important. Il y a quelques virus proches du VIH1 de type MN qui sont des virus plus rares qui viennent du gorille mais qui n'ont pas conduit à des épidémies. Et puis ici, ce que je veux vous présenter, c'est le HIV2 qui, lui, vient du Soutimangamé. Donc c'est un singe vert, en fait, je vais vous présenter quelques slides. Et le cousin du HIV2, c'est le SIV macaque, c'est-à-dire un virus qu'on trouve chez les macaques, un virus civien de macaque qui, en fait, est apparu dans des conditions artificielles dans des eaux. Et ce virus SIV macaque est un modèle d'étude. Et donc les patients HIV2, ils sont très nombreux et ils ont des propriétés assez intéressantes. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces patients VIH2 et qu'est-ce qui caractérise le virus VIH2 en comparaison au VIH1? Eh bien, le VIH2 est beaucoup moins pathogène que le VIH1, tout d'abord. Le VIH1, ici, si on considère des patients infectés par le VIH1 mais non traités, on sait que la vaste majorité d'entre eux vont développer un sida au cours de leur vie et un faible pourcentage vont peut-être naturellement contrôler le virus. Et puis, ce virus, on sait, est pandémique, on le retrouve partout sur notre planète. Et donc, comme j'ai indiqué, il y a une incapacité de notre système immunitaire à contrôler ce virus. Au contraire, le VIH2 est peu pathogène. En fait, chez les patients infectés par ce virus, seulement moins de 25% vont développer un sida au cours de leur vie, sans traitement. Et la vaste majorité d'entre eux, plus de 75%, contrôlent le virus naturellement. Alors, les mécanismes ne sont évidemment pas connus, mais ce que je vais discuter aujourd'hui, c'est certaines possibilités pour comprendre ce qui se passe chez ces patients. Alors, le fait que les patients contrôlent la réplication du virus, ça veut dire aussi que le virus va se disséminer beaucoup moins efficacement. Et effectivement, donc les patients infectés par le VIH2, on les trouve surtout en Afrique de l'Ouest. Et puis, dans les pays dans lesquels ces personnes ont immigré, donc c'est-à-dire la France, le Portugal en particulier. Donc, comme j'ai indiqué, on ne sait pas encore prouver exactement quelle est la cause du contrôle chez ce virus. Il y a des différences génétiques entre le VIH1 et le VIH2, je vais y revenir, mais in vitro, c'est un virus qui se réplique très bien, il n'y a pas d'évidence que ce virus se répliquerait moins bien que le VIH1 ou qu'il serait moins adapté. Donc ce qui semble ressortir, c'est qu'il y a peut-être une contribution du système immunitaire pour contrôler l'infection chez la plupart de ces patients. Alors, ça, c'est un peu de phénoménologie, c'est d'écrire chez les patients VIH2 quelles sont les caractéristiques du système immunitaire qui laissent penser ça. Eh bien, c'est tout un tas de caractéristiques en fait, qui sont vraiment celles qu'on souhaiterait obtenir chez un patient VIH1, qu'on souhaiterait induire avec des vaccins ou des approches thérapeutiques. Donc la plupart des patients VIH2 se comportent comme des non-progresseurs à long terme, effectivement, puisque pendant toute leur vie, pour la majorité d'entre eux, ils ne vont pas progresser vers la maladie. Ils ont une charge virale dans leur plasma, c'est-à-dire au niveau ARN, qui est faible ou indétectable. Il y a une charge provirale, donc il y a un réservoir viral chez ces patients, donc ce qui suggère que peut-être le virus sous forme provirale n'est peut-être pas un problème en soi, en tout cas, il faut repenser la façon dont on conçoit le réservoir viral. Ces patients ont un réservoir proviral, mais il est contrôlé, puisqu'il ne donne pas lieu à la production de nouvelles virémies. Ces patients présentent des anticorps neutralisants sur plus d'une quinzaine d'années, donc on ne sait pas encore vraiment s'ils sont à large spectre, mais en tout cas, ils sont très efficaces sur de nombreuses années. Les lymphocytes TCD8 sont polyfonctionnels, c'est-à-dire qu'ils vont sécréter toutes les molécules que Alain a mentionnées, les cytokines MIP, les protéines de lyse des cellules, perforines, etc. Les épitopes qui sont reconnus par ces TCD8 sont plus larges que ce qu'on observe dans le VIH1. Et puis, phénomène très très intéressant, je trouve, c'est une étude qui a été publiée en 2013 suite à l'analyse de cohortes en Afrique. Ce qui semble ressortir, c'est que l'infection par le VIH2 protège aussi contre le développement de la maladie VIH1. Et donc, on voit ça chez des patients qui sont co-infectés par les deux virus. Donc ici, on compare des individus qui sont infectés uniquement avec le VIH1 ou bien qui ont une double infection VIH1-VIH2. Et ce qu'on peut voir ici, c'est le temps que prend le développement de la maladie vers le stade sida. Et alors que les patients infectés par le VIH1 seul développent le stade sida environ ici à 66 mois en moyenne, le fait d'être co-infecté par le VIH2 procure un avantage, une protection d'environ 36 mois, donc 3 ans avant de développer la maladie sida. Donc ça, en termes de protection thérapeutique en dehors des traitements, disons d'un point de vue vaccinal, c'est probablement un des meilleurs effets connus de protection qu'on peut induire chez un patient VIH1, c'est d'avoir une co-infection VIH2. Alors évidemment, on ne va pas aller co-infecter des patients VIH1 avec l'UH2, mais ce qui est important ici, c'est de dire qu'il y a des choses vraisemblablement très importantes à comprendre ici, pour expliquer quels sont les mécanismes qui permettent d'induire cette protection et comment on peut les mimer, comment on peut les exploiter. Donc le VIH2, je l'ai indiqué, c'est un virus qui vient du singe vert mangabé, je vous montre une photo ici, qu'on trouve principalement en Afrique de l'Ouest. Et l'épicentre de l'infection VIH2, c'est la Guinée-Bissau. Donc ici, on a Sénégal, on a Gambie, Guinée, voilà. Alors, quelle est l'origine du VIH2 comparé au VIH1? Donc, je ne sais pas si ça a été mentionné, mais le VIH1, c'est plutôt les années 20. C'est plutôt Congo, et c'est, comme je vous l'ai dit, chimpanzé. Le VIH2, donc, c'est Afrique de l'Ouest. Et le timing est un petit peu différent. Donc ça, c'est des études qui ont été faites par l'équipe de Van Damme sur comprendre l'origine et l'histoire du virus VIH2. Donc il semblerait que les premières zoonoses qui ont donné le VIH2 tel qu'on le connaît dans l'épidémie chez l'homme, c'est les années 1940. Ça correspond en fait, en Guinée-Bissau, qui était une ancienne colonie portugaise, à des périodes où certains traitements étaient mis en place dans la population et certains programmes de contrôle étaient mis en place. Et puis ce qui a été aussi montré, c'est que l'explosion épidémique de l'infection correspond dans les années 1970 en fait avec la révolution des œillets dans ce pays, enfin liée au Portugal, et donc probablement des problèmes liés à l'hygiène, etc. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1 à 2 millions de personnes infectées par le VIH2, et je vais revenir sur la prévalence. Donc ce virus, il a été isolé, évidemment, au laboratoire pour qu'on puisse l'étudier. Donc ça, ce sont les travaux de François Clavel, Luc Montagnier et beaucoup d'autres chercheurs à l'Institut Pasteur. C'était 1986, donc quelques années après l'isolation du VIH1 par Françoise Barré-Sinoussi. Et puis il a été séquencé très rapidement en 1987 par Guyadé, Mike Emmerman et Marc Alizon, également à Pasteur. Donc maintenant, on connaît bien ce virus et on peut l'étudier. Alors, ce qui est aussi intéressant avec ce virus, c'est que maintenant, on vit une période un peu, probablement assez stable, en tout cas dans ces pays, et puis on connaît bien ce virus, on sait contrôler, on sait un peu traiter les patients infectés, et en fait, la prévalence baisse, la prévalence de l'infection par le VIH2 baisse, et il est vraisemblable qu'à cette vitesse, l'infection au VIH2 disparaisse, en fait. Donc, c'est des études qui ont été faites sur plusieurs années, ici 1998, et puis récemment confirmées en 2018, en Guinée-Bissau, la prévalence du VIH2 continue de baisser, alors que celle du HIV1 est relativement stable. Et si on regarde les tranches d'âge, en fait, de 1987 à 2005, ce qu'on voit, c'est que alors que l'infection VIH2 se cantonnait, on va dire, un peu dans toutes les générations en 1987, 25-34 ans, 35-44, il y a clairement un biais maintenant vers des personnes plus âgées, enfin, en tout cas, des personnes qui vivent avec le virus et qui ne vont pas transmettre le virus. Donc encore une fois, ça indique une propriété assez remarquable qui est peut-être que le système immunitaire contribue à contrôler ce virus et empêcher sa dissémination. Donc ça, c'est le VIH2. Maintenant, ce que je voudrais vous expliquer, c'est essayer de comprendre pourquoi le système immunitaire ne parvient pas à monter une réponse immunitaire contre le VIH1, alors que peut-être cela pourrait être le cas par le VIH2, et comment nous, on a essayé de comprendre cette question au laboratoire. Et la façon dont on a posé cette question, c'est d'essayer de savoir s'il existait une réponse immunitaire innée efficace contre ces virus. Donc les réponses immunitaires innées sont les réponses, en tout cas dans ce contexte, qui sont mises en place très très rapidement après la transmission, en tout cas c'est comme ça qu'on les conçoit, et qui vont, dans un second temps, permettre d'instruire la réponse adaptative. C'est ce que je vous présente un peu ici. Donc l'immunité innée, c'est un système de protection non clonale de la défense, si on le prend au sens large, qui en fait implique la capacité de reconnaître la présence de pathogènes, donc ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ça peut être des dommages dans les tissus, et puis le fait de pouvoir répondre à ces détections en induisant des mécanismes effecteurs, donc ça peut être la réparation du tissu, ça peut être l'activation de l'immunité adaptative, ou ça peut être l'élimination, ou au moins le contrôle ou la tolérance du pathogène. Et ce sont des processus extrêmement contrôlés, puisqu'on sait bien maintenant que des défauts d'auto-immunité peuvent contribuer à de nombreuses maladies. L'auto-immunité, si par exemple ces mécanismes s'activent de manière non contrôlée, l'infection peut être le cas du VIH si ce système ne reconnaît pas bien les virus, et puis le cancer également, on voit que toutes ces voies sont exploitées dans les cellules cancéreuses. Et une cellule très importante qui joue vraiment le chef d'orchestre du système immunitaire dans ce contexte, c'est la cellule dendritique. Donc la cellule dendritique, elle a l'intérêt de faire le lien entre immunité innée et immunité adaptative. C'est une cellule spécialisée du système immunitaire, cellule hématopoïétique, qui va d'une part exprimer toute une collection de récepteurs, de détecteurs de pathogènes. Alors il y a les TOL qu'on voit à la surface des cellules, il y a également des récepteurs à l'intérieur des cellules, et qui vont soit répondre aux pathogènes à l'extérieur des cellules, mais qui vont également répondre aux infections, lorsque par exemple un virus infecte une cellule dendritique. Et lié à ça est la capacité assez remarquable de ces cellules, en réponse à ces signaux, d'exprimer tout un tas de molécules à leur surface qui vont contribuer à l'activation des lymphocytes T de l'immunité adaptative, CD4-CD8, et puis dans un second temps, les lymphocytes B avec la production d'anticorps. Et ça, c'est lié à la présentation efficace de complexes MHC-peptides, l'expression de molécules dites de co-stimulation qui vont ajouter d'autres signaux pour activer les lymphocytes, et puis la production de molécules solubles. Donc, la question qui nous intéresse, c'est quelle est la réponse des C-cellules dendritiques au VIH1 et au VIH2. Et donc, pour ce faire, on a pris des cellules dendritiques de personnes non infectées, et puis on les a incubées in vitro au laboratoire avec le VIH1. Et puis, ce qu'on a pu observer ici, donc ça, ce sont des fax où un point, des graphes de cytométrie, en fait, où un point correspond à une cellule. Donc ça, ce sont des cellules normales où il n'y a pas la cellule n'est pas infectée, il n'y a pas d'activation de l'immunité. On peut le voir parce que le virus qui est ici codé par la GFP n'est pas détecté. Et puis, les molécules de co-stimulation telles que CD86 ne sont pas induites. Et puis, lorsqu'on met le VIH1 sur ces cellules, ce qu'on peut remarquer, c'est que, eh bien, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Les cellules dendritiques ne s'activent pas, n'induisent pas ces molécules de co-stimulation. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons montré, c'était un petit peu connu. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'elles s'infectaient très mal, en fait. On voit ici avec la GFP qu'en fait, les cellules dendritiques humaines n'ont pas l'air d'être capables de répliquer le virus. Donc, je dois dire ici aussi que les cellules dendritiques humaines sont des cellules CD4+, comme les lymphocytes TCD4, et donc ce sont des cibles du virus, comme les macrophages également. Et alors, ici, on a pris avantage d'une petite astuce de virologie que Mansef a mentionnée la semaine dernière. C'est la découverte par le laboratoire de Jean-Luc Darlix à Lyon et d'Andrea Cimarelli que la petite protéine VPX, qui est présente dans le VIH2 et absente du VIH1, permet en fait d'infecter ces cellules dendritiques. Donc, eux, ils s'en sont servis pour des questions de thérapie génique et puis de virologie. Mais nous, on s'est posé la question de l'immunité innée avec cet outil. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement rajouter la petite protéine VPX à HIV1. Et puis maintenant, voir ce qui se passe quand on essaie d'infecter ces cellules dendritiques. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, les cellules s'infectent efficacement, très efficacement. Donc ça, on reproduisait des résultats connus. Et puis, ce qui n'était pas connu et ce qui vraiment était frappant ici, c'est que maintenant, les cellules dendritiques sont capables de reconnaître le VIH1. Donc ça, c'est un résultat important, parce qu'avant ce résultat, on ne savait pas, il ne faut pas oublier que le VIH1 est une zoonose, on ne savait pas si le système immunitaire humain, si les cellules dendritiques avaient la capacité de reconnaître ce virus. Il était possible que, de par l'évolution, simplement, les êtres humains ne sont pas capables de reconnaître ce virus, n'ont pas la machinerie nécessaire. Mais non, ce n'est pas le cas. En fait, ce que ce résultat prouve, c'est que nos cellules humaines sont tout à fait capables de reconnaître le VIH1. On a des molécules qui font ça, il y a des mécanismes, donc on les étudie évidemment au laboratoire. Mais le VIH1 échappe à ces mécanismes. Pourquoi ? Ici, parce qu'il n'infecte pas efficacement ces cellules. Et je vais revenir sur ce concept d'infection des cellules dendritiques. Donc évidemment, l'expérience suivante qui était évidente à faire ensuite, c'était de tester si le VIH2 lui-même faisait bien ça, puisqu'il possède VPX. Et donc on a fait exactement la même expérience, mais cette fois avec un VIH2, et donc de manière vraiment différente du VIH1. Effectivement, le VIH2 infecte très efficacement les cellules dendritiques, et puis active ces cellules dendritiques. Alors, il existe bien sûr d'autres différences entre le VIH1 et le VIH2, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y a des différences au niveau de leur capacité à moduler l'expression de surface de lymphocytes infectés, d'exprimer différentes quantités d'enveloppes à la surface des virions, et tout cela, bien sûr, probablement contribue aux différences qui existent chez les patients infectés. Parce que je ne veux pas dire que c'est la seule différence qui explique la différence de physiopathologie, mais néanmoins, c'est une des, si ce n'est la différence la plus noire et blanc entre les deux virus, et en particulier qui permet de faire le lien entre l'infection et l'activation du système immunitaire. Alors, est-ce que cette activation du système immunitaire inné induit une protection ? Donc, on a fait cette expérience in vitro, combinant l'infection de cellules dendritiques qui sont dessinées ici, infectés par notre VIH2 ou VIH1 avec VPX, avec des cellules cibles TCD4. Et puis on a fait cette expérience parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les cellules dendritiques infectées dans ces conditions se mettent à exprimer des molécules de défense, de protection. Et donc on voulait savoir si effectivement on pouvait protéger des cellules TCD4, des lymphocytes TCD4 qui eux-mêmes n'étaient pas encore infectés. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, c'est le pourcentage de TCD4 infectés dans ces expériences, où le VIH est capable d'infecter ces TCD4 lorsqu'elles sont seules, Et puis si maintenant on se place dans des conditions où des cellules dendritiques sont présentes et que ces cellules dendritiques ont vu le VIH tel que je vous l'ai présenté, eh bien les TCD4 sont protégés et donc ne répliquent plus le virus. Donc c'est vraiment un mécanisme de défense antivirale qui est engagé par cette reconnaissance par les cellules dendritiques du VIH2. Donc ces travaux ont prouvé, sans connaître les facteurs à l'époque impliqués vraiment, mais en tout cas ont prouvé génétiquement l'existence d'un détecteur du VIH1 qui est capable de reconnaître le virus et d'activer l'immunité antivirale. Les cellules dendritiques humaines ont une capacité de reconnaissance de l'infection par les VIH1 et d'activer l'immunité. Le VIH1 n'est pas efficacement reconnu normalement par les cellules dendritiques, car le virus infecte inefficacement ces cellules. Par contre, le VIH2 infecte efficacement les cellules dendritiques, ce qui leur permet de reconnaître la présence du virus et d'activer une réponse immunitaire innée et adaptative. Et enfin, donc, ces travaux impliquent des facteurs de restriction qui contrôlent l'infection et des facteurs de senseurs, de récepteurs du virus qui vont reconnaître le virus. Et c'est ce dont je vais parler un petit peu dans la suite. Donc sur les facteurs de restriction, et bien ce sont les travaux en fait de deux labos, il y a le laboratoire de Moncef Ben-Kiran et le laboratoire de Jacek Skoronski aux US, qui ont identifié par la suite qu'en fait la cible de VPX, c'était la protéine SAMHD1, et donc ça a donné beaucoup de sens aux travaux qu'on a présentés, et ça a effectivement validé le fait que VPX permettait de lever un blocage de l'infection en dégradant une protéine qui normalement empêche la reverse transcription, donc empêche la production d'ADN viral. Peut-être ce qui est intéressant de noter ici, c'est que VPX qui dégrade SAMHD1 est présent dans le VIH2, et donc c'est un virus qui va générer un réservoir en fait, de par la présence de VPX. Or, comme je vous l'ai dit, probablement le réservoir semble bien contrôlé chez ces patients VIH2. Donc encore une fois, c'est une illustration que je pense que la question de l'éradication de réservoir, c'est une façon de faire, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir au contrôle du réservoir par l'immunité sans vraiment nécessairement chercher à éradiquer le réservoir. Ce que nous dit la nature, c'est qu'au contraire, la meilleure façon de contrôler, de ne pas développer la maladie, c'est probablement de contrôler le réservoir. Voilà, donc ici, on avait fait une observation intéressante qui était que le VIH2 infecte des cellules dendritiques. Et en fait, ce n'était pas une observation unique au VIH2. En fait, on s'est rendu compte que tout un tas de virus sont capables d'infecter les cellules dendritiques. Par exemple, ici, c'est le virus de la grippe, 31% de cellules infectées. Virus de l'herpès de type 1, 19%. Le VSV, 83%. Et ça nous a quand même posé un petit problème de nous dire est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de dire on doit infecter des cellules pour activer une bonne réponse immunitaire pour in fine, ne pas développer trop d'infections. Donc on s'est posé la question, comment ce paradoxe est géré dans le système immunitaire? Donc ce que je veux faire d'abord, c'est illustrer un petit peu schématiquement ce paradoxe pour qu'il soit assez clair. Donc ce que je vous ai montré, c'est qu'effectivement, un virus qui peut infecter des cellules dendritiques, ça peut être vu comme un bénéfice parce que ça va activer des récepteurs, ça va faire des protéines virales qui vont être présentées, on va avoir des molécules de co-stimulation. Donc tout ça, ça contribue à activer la réponse immunitaire. Mais en parallèle, on sait que c'est aussi probablement négatif d'un certain point de vue, puisque l'infection des cellules dendritiques va générer plus de virus. Et puis on sait que les virus ont évolué tout un tas de mécanismes d'évasion, et notamment des mécanismes de suppression de la réponse immunitaire. Et donc peut-être que des cellules dendritiques infectées par un virus, et bien ça permet au virus de manipuler le système immunitaire. Et puis enfin, on sait qu'une cellule infectée, de toute façon, en dehors des lymphocytes, qui peuvent diviser, ce type de cellule va mourir du fait de l'infection. Donc comment ce paradoxe est géré? Il semblait y avoir un dilemme, et effectivement ce dilemme avait été proposé dans la littérature, entre la nécessité d'infecter probablement des cellules dendritiques, et puis en même temps le fait que cette infection pourrait être négative, car elle permettrait à des virus d'engager des mécanismes d'échappement. Donc comment on a testé expérimentalement des mécanismes qui permettaient d'expliquer, de résoudre ce paradoxe. Mais en fait, on a pris avantage du fait que ces cellules dendritiques sont elles-mêmes sous-divisées en sous-parties. Et donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que les immunologistes adorent classifier les cellules, mais simplement vous dire qu'il existe deux types de cellules dendritiques principales, les cellules CD1C qui sont en bleu ici, et les cellules CD141. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il existe une division du travail pour la réponse au virus entre ces types de cellules dendritiques. Et en fait, alors que les cellules DC1 que je vous ai montré répondent et se font infecter par tout un tas de virus, donc ici HIV2 encore, ici HIV1 plus ou moins VPX, le virus de la grippe, l'herpès et VSV. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une résistance, alors qui n'est pas complète, mais qui est quand même assez forte, et relativement large, de ce second type de cellules dendritiques, les CD141+, qui, elles, au contraire, semblent assez bien résister à l'infection par les virus. Ici, on a une baisse d'infection. Ici aussi, on voit qu'elles ne sont pas infectées par le VIH1. Ici, elles ne sont pas infectées. Ici également, elles sont moins infectées. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, il existe une coopération entre ces cellules dendritiques. Donc il faut infecter des cellules dendritiques, effectivement, pour générer des peptides et générer de la réponse. Mais il faut également un deuxième type de cellule dendritique qui, lui, va résister et qui va pouvoir recevoir des informations de la première pour contribuer à une meilleure activation du système immunitaire. Donc c'est ce type d'expérience qu'on a fait ici, où en fait on mélange, on récupère les deux types de cellules dendritiques de donneurs, on les mélange, et puis on sait les identifier selon le type de HLA qu'ils ont. Et puis ce qu'on a été capable de montrer, c'est que les CD141, qui ne sont pas infectées, elles ont besoin de leurs amis, les CD101C, et du fait qu'elles se fassent infecter, pour être capables d'activer fortement des lymphocytes T. Donc c'est ce que je résume ici, en fait, c'est qu'il y a une coopération entre les cellules, entre les sous-types de cellules dendritiques, et donc ça résout un petit peu ce paradoxe de l'infection des cellules dendritiques. Il y a une division du travail qui permet d'activer une réponse immunitaire efficace en se servant de l'infection virale. L'infection virale semble importante, nécessaire en tout cas dans ces cas, dans le premier type de cellules dendritiques, pour activer l'immunité innée, présenter des antigènes. Et puis le pendant de cette infection dans les DC-CD1C, c'est qu'un autre type de cellule dendritique est résistant, va pouvoir recevoir des signaux et va pouvoir activer, contribuer à l'activation des lymphocytes T. Voilà, donc dans les CD1C, on a mis en évidence des mécanismes de reconnaissance du virus, production d'antigènes viraux. Et puis ici, ce qu'on a mis en évidence, c'est des mécanismes de résistance antiviraux, en particulier via une petite protéine qui s'appelle RAP15, qu'on étudie au laboratoire encore. Donc maintenant qu'on a un petit peu clarifié ce paradoxe de l'infection des DC, je pense que c'est clair que cette infection peut être bénéfique. La question devient, comment est reconnu le virus? Si le virus infecte la cellule dendritique, qu'est-ce qui est reconnu en fait? Quand on dit elle est reconnue, ce sont des molécules du virus, quels sont les déterminants des protéines, etc. Donc c'est ce qu'on a essayé de caractériser ensuite au virus, enfin au niveau de la reconnaissance du virus. Et ce qu'on a pu montrer, je vous passe les résultats, mais c'est qu'en fait, ce qui est important dans la reconnaissance du VIH2, c'est une combinaison entre l'ADN viral, qui est ici, et puis la capside du virus. Donc la capside, c'est cette structure qui protège l'acide nucléique du VIH dans la particule virale, mais également tout au long du transport du virus de la membrane plasmique au noyau. À une certaine étape qui est en train d'être réévalué, se passe une étape de décapsidation ou de désassemblage qui fait que l'ADN viral va pouvoir être libéré et puis in fine se faire intégrer. Mais ce qui semble, c'est que la capside virale a vraiment un rôle structurant important pour vraiment protéger l'ADN viral et empêcher qu'il soit reconnu par tout un tas de senseurs. Et donc, nos résultats suggéraient que l'ADN viral était nécessaire et puis que la capside probablement régulait cette reconnaissance du VIH2. Donc, qu'est-ce qui peut reconnaître un ADN viral? Eh bien, ce sont des récepteurs de l'immunité innée, et en particulier des récepteurs de l'immunité innée dans le cytosol. Ici, c'est une diapositive pour vous présenter le contexte très général de la reconnaissance de l'ADN en biologie. En fait, il y a vraiment un rôle universel de l'ADN. J'ai entendu que James Watson était la semaine dernière ici. Il y a un rôle universel de l'ADN également dans l'immunité, dans la reconnaissance des pathogènes. Chez les bactéries, donc, on sait que les enzymes de restriction, les mécanismes de type CRISPR sont capables et sont même nécessaires pour médier la réponse aux pathogènes de ces bactéries, de par la reconnaissance de l'ADN. Et chez les vertébrés, ou en tout cas, disons chez les animaux, le principe est un petit peu différent. Ici, l'idée, c'est que l'ADN est normalement séquestré dans des organelles. On trouve l'ADN dans le noyau, on trouve l'ADN dans la mitochondrie, mais normalement, une cellule saine n'a pas d'ADN dans le cytoplasme. Et donc, la présence d'ADN dans le cytoplasme est perçue comme un signal d'alarme, en fait, par l'immunité innée, comme un signal de danger qui peut être reconnu. Comment cet ADN est reconnu? Donc, de nombreuses molécules ont été proposées, et la molécule qui est clé pour la reconnaissance de l'ADN cytosolique, et en particulier l'ADN du VIH, c'est une molécule qui s'appelle CEGAS, que je vais définir dans quelques slides, et qui est maintenant reconnue comme un sensor, un récepteur essentiel de l'ADN cytosolique, qui est capable d'activer l'immunité innée. Et donc c'est une molécule qui reconnaît l'ADN venant de très nombreuses sources, de bactéries, de cellules mortes, mais également de l'intérieur de la cellule, suite à des stress génotoxiques ou à des stress de la mitochondrie. C'est également une molécule qui probablement joue un rôle dans l'immunogénicité de nombreux vaccins. Et pour le VIH, donc on a pu effectivement montrer que si on enlève l'expression de CEGAS de nos cellules dendritiques, donc ici c'est la protéine CEGAS qu'on détecte et qui est perdue dans ces conditions expérimentales, et bien si on regarde maintenant la capacité des cellules dendritiques à s'activer ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici sont les conditions contrôle où les cellules dendritiques répondent au virus, VPX est présent partout, et puis si on enlève CEGAS, on perd la réponse en fait au VIH, alors que d'autres types de réponses sont maintenues. Donc ça, c'était un des éléments qui nous a permis de démontrer qu'effectivement, le VIH2 infecte les décès, et comment il est reconnu? Il est reconnu par CEGAS, au moins par CEGAS, en tout cas pour la partie ADN, la partie capside, c'est encore des choses qu'on étudie. Et le VIH1 lui échappe à la reconnaissance par les décès. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne fait pas d'ADN, en fait, puisque SAMHD1 est présent, SAMHD1 empêche la reverse transcription efficace, et donc il n'y a pas accumulation de suffisamment d'ADN pour induire cette réponse. Alors, CEGAS, c'est une enzyme en fait, et c'est ça qui a été tout de suite assez fascinant dans ce domaine, c'est que, alors que la plupart des molécules de l'immunité innée intracellulaire signalisent par interaction protéine-protéine, cette protéine était assez unique parce qu'elle en fait, elle génère la production d'un petit second messager, qui est très intéressant, qui est le cyclique GMP-AMP, donc l'AMP-GMP cyclique, ou CGAMP, que je vous présente ici. Et donc, cette synthèse se fait uniquement en présence d'ADN. Donc, CEGAS est montré ici dans le cytoplasme. CEGAS qui lie l'ADN dans le cytoplasme. Et en présence d'ATP et de GTP et d'ADN, CEGAS va pouvoir synthétiser ce second messager, le CEGAMP, dans la cellule, qui va s'accumuler dans la cellule. Que fait le CEGAMP dans la cellule? Il a un récepteur qui est STING, que je vous montre ici. Donc, il y a une protéine qui est dans le réticulum endoplasmique. Et puis qu'il y a une poche de reconnaissance du CEGAMP. Et une fois que CEGAMP lit STING, STING va pouvoir médier une voie de signalisation alors assez classique d'activation de facteurs de transcription IRF3, NF-kappa-B, qui vont à la fois produire des facteurs solubles de défense tels que l'interféron de type 1, mais également activer les cellules dendritiques et donc leur permettre de jouer leur fonction de présentatrice d'antigènes et d'activer les lymphocytes T. Le fait ici que CEGAS produise une petite molécule, ça a ouvert différentes possibilités, parce que les petites molécules ont des propriétés de diffusion qui sont très intéressantes. Et ce qui nous a intéressé au laboratoire, c'était guidé par des résultats en fait inattendus, c'est de voir si non seulement le CEGAMP qui est produit dans une cellule infectée va pouvoir activer STING, comme je vous l'ai montré, mais de tester la possibilité que peut-être le CEGAMP pourrait également être transmis dans d'autres cellules. Et pourquoi pas que des virus eux-mêmes pourraient empaqueter cette petite molécule, un peu à la forme d'un cheval de Troie, et que cette petite molécule qui active l'immunité innée pourrait ainsi être transmise à des cellules cibles, à des nouvelles cellules non infectées, par les virus eux-mêmes. Donc, comment on a testé ça? Eh bien, une des expériences qu'on a effectuées est présentée ici. Donc, c'est une expérience de biochimie où on a prélever, échantillonner des cellules ou des virus de cellules où CEGAS est activé artificiellement, et puis on a lisé ces échantillons, on a extrait les petites molécules, et puis on les a analysées sur un spectromètre de masse. Et puis on a comparé les spectres au CEGAMP synthétique. Donc ici, je vous présente le spectre du CEGAMP synthétique, donc il y a un spectre de masse de référence. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, si on analyse nos particules virales produites à partir de cellules qui ont vu une activation de CEGAS, eh bien, ces particules virales contiennent effectivement le CEGAMP. Donc ça et d'autres types d'expériences ont effectivement prouvé que CEGAMP était empaqueté dans les particules virales. Alors, il est empaqueté, est-ce qu'il est transféré dans des cellules cibles? Est-ce qu'on peut activer l'immunité innée? Donc ici, ce que je vous montre, c'est effectivement que non seulement il est empaqueté, mais il est également transmis. Et ici, il y a des cellules dendritiques. On a fait cette expérience en utilisant des inhibiteurs de la fusion de nos particules virales. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsque la fusion, l'entrée des particules virales est inhibée par ces inhibiteurs, eh bien, même si ces gaz étaient présents dans la cellule au départ, on perd en fait l'activation de l'immunité innée. Donc le Cgamp peut rentrer dans les particules virales et être transmis à des cellules cibles. Est-ce que c'est bénéfique en termes de réponse immunitaire? Est-ce qu'on induit une protection, un effet antiviral? Donc pour tester cette possibilité, maintenant ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé des cellules à nos particules virales qui possédaient le Cgamp, donc venant de cellules Cgas, et puis on les a infectées dans un second temps, on les a challengées avec de nouvelles infections virales pour voir si on induisait un effet antiviral. Donc on a utilisé des virus de référence, soit un virus modifié de la vaccine, soit l'herpès. Ici, je vous montre l'herpès. Et donc ce sont des courbes d'infection en fait en dose du virus de l'herpès. Donc ça, ce sont les contrôles où effectivement le virus infecte très bien les cellules, ok, pas de problème. Et puis si on traite nos cellules à l'interféron, c'est un contrôle positif, on est capable de bloquer l'infection. Et puis si on traite maintenant nos cellules non pas avec de l'interféron, mais avec des particules virales venant de cellules où Cgas est positive, eh bien on est capable de manière similaire d'induire une protection et d'induire un effet antiviral. Donc ça suggère qu'effectivement ce transfert de Cgamp, ce mécanisme d'activation par Cgas, donne un effet viral à distance. Alors ça suggérait que peut-être ça pouvait contribuer à l'immunogénicité de certains vaccins, parce que de nombreux vaccins sont dérivés de virus, et voire même que certains virus, qui sont plutôt bien contrôlés par le système immunitaire, peut-être de la même manière ont cette propriété d'encapsidation du Cgamp et de transfert. Et donc pour tester cette hypothèse, on a analysé des stocks viraux du vaccin MVA. En fait. Donc ça, c'est un vaccin qui est développé en clinique. C'est un des candidats POX qui est utilisé en clinique, notamment à Créteil, pour essayer de stimuler, avec des protéines, en lui faisant exprimer des protéines du VIH, pour essayer de stimuler une réponse T contre le VIH. Et donc on a analysé des stocks viraux de ce vaccin. Puis on a également analysé des stocks viraux du cytomégalovirus de la souris. Et effectivement, en analysant en spectrométrie de masse, on a constaté que ces stocks viraux contiennent bien la présence de la molécule Cgamp, ce qui peut-être suggère qu'une partie de l'immunogénicité de ces vaccins est attribuable à la présence de cette molécule. Alors, ça reste des quantités faibles, et je vais revenir là-dessus, donc peut-être il serait intéressant d'augmenter les quantités de ces molécules dans les vaccins. Donc voilà, donc ça résume ce que je vous ai dit sur une propriété inattendue de ce mécanisme de reconnaissance par Cgas. Donc je vous rappelle, c'est le VIH2 qui semble activer ce mécanisme alors que le VIH1 ne le fait pas. C'est que non seulement une cellule infectée va pouvoir répondre à l'infection par Cgas et engager des mécanismes de défense, mais les nouveaux virions qui sont produits, la progénie virale, va elle-même contenir une molécule de l'immunité, le Cgamp, qui va pouvoir induire des signaux dans les prochaines cellules, peut-être, pour accélérer la réponse immunitaire, avoir des effets à distance et qui pourraient probablement augmenter la réponse immunitaire. Donc, quelque chose qu'on explore au laboratoire, c'est l'idée que peut-être on peut maintenant exploiter cette propriété pour fabriquer des nouveaux types de vaccins qui seraient dérivés de virus, mais où cette fois, on augmenterait les quantités de Cgamp artificiellement pour atteindre des niveaux élevés. Et donc, par exemple, une des approches qu'on développe, c'est de fabriquer des pseudo-particules du VIH qui, maintenant, contiennent du Cgamp. Et c'est un nouveau type de vaccin. Classiquement, un vaccin, c'est des protéines et un adjuvant séparés. Ici, on peut voir ce type de vaccin comme les protéines et puis l'adjuvant qui est inséré dans la particule virale. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser ce type de particules virales? Eh bien, c'est qu'ici, on bypass en français, on passe à travers, on court-circuite, merci, l'infection, la nécessité d'infecter ces cellules dendritiques. Ce que je vous ai expliqué, que le VIH2 doit infecter les cellules, mais évidemment on ne veut pas les infecter des individus avec des virus. L'avantage ici, c'est que le Cgamp qu'on introduit va agir en aval de la voie de signalisation. Il n'est pas nécessaire d'amener l'ADN dans la cellule, puisqu'en fait on amène le produit de ces gaz directement en aval. Et donc, on stimule la même voie qui serait celle activée par Cgas normalement. Donc, on n'a pas besoin de réplication. Et puis, en même temps, l'avantage, c'est qu'on amène dans la même cellule, au même endroit, au même moment, les antigènes viraux. Et on sait que ça, c'est une propriété probablement importante dans l'immunogénicité des vaccins. C'est la colocalisation entre les adjuvants et les protéines, et le fait qu'il est probablement important de limiter leur séparation dans les cellules. Donc ici, on résout ce problème puisque les deux sont physiquement associés. Et donc peut-être, ici, l'intérêt, ce serait d'aller initier des réponses CD8 et CD4 très très puissantes, puisqu'on amène l'immunomodulateur très efficace, qui est celui qui est activé naturellement dans de très nombreuses infections. Et puis on peut également, puisqu'on est dans un contexte viral, amener tous les épitopes qui sont d'intérêt pour le virus d'intérêt. On n'a pas forcément besoin d'un vecteur de type vaccinia qui peut causer des dilutions d'épitopes. Donc ce sont des choses qu'on est en train d'explorer au laboratoire. Donc voilà, je vais maintenant finir sur quelques concepts peut-être un peu plus généraux sur la base de nos résultats, mais également d'autres résultats. Peut-être pour être un petit peu plus optimiste aussi qu'Alain. Donc je pense que ce qu'on apprend de tous ces patients qui contrôlent l'infection et de modèles aussi animaux, c'est que je vous ai présenté une route qui permet de contrôler le virus, mais il y a vraisemblablement plusieurs routes même parallèles qui n'utilisent pas les mêmes mécanismes, qui permettent d'induire une réponse immunitaire protectrice contre les rétrovirus, dont le VIH fait partie. Donc le VIH2, je vous en ai parlé. Donc c'est vraisemblablement, potentiellement, on n'a pas de preuves, c'est très difficile chez l'homme d'amener des preuves formelles, mais en tout cas des indices forts qui suggèrent que l'infection des cellules dendritiques pourrait jouer un rôle important via probablement l'activation de lymphocytes TCD8. Chez les contrôleurs, donc ça c'est moins bien compris, les contrôleurs VIH1, il y a un lien avec le HLA, mais on comprend encore mal quels sont les mécanismes effecteurs vraiment nécessaires, et il n'y a pas vraiment de pendant in vitro qui permet de donner des indices sur les mécanismes, en tout cas pas encore vraiment très bien établis. Les CD8 sont probablement importants, mais peut-être d'autres types de réponses sont importants. Et puis je mentionne simplement le virus de la leucémie murine, MLV, où là on voit bien que les anticorps sont nécessaires et suffisants pour la protection. Donc l'idée des anticorps neutralisants à large spectre, je pense, est effectivement très intéressante également dans le VIH1. Pourquoi ces virus restent un problème ? Donc, une idée qu'on propose sur la base de nos résultats, c'est celui de la négligence de l'hôte, en fait. C'est pas l'idée de l'échappement viral. L'idée de l'échappement viral, ce serait de penser que ce sont des virus qui ont bien coévolué avec leur hôte et puis qui ont des mécanismes d'échappement, donc des protéines qui pourraient, par exemple, inactiver des mécanismes de réponse ou bien qui vont muter certains résidus. Et ça se passe pour le VIH. Mais les mécanismes qui nous intéressent ici sur les contrôles suggèrent que probablement, peut-être lié à la zoonose, simplement, l'homme n'est pas encore adapté lui-même à ce type de virus. Ce n'est pas le virus qui s'adapte. Et il y a peut-être simplement une négligence de l'hôte par rapport à ce virus. Ce que je vous ai montré, c'est que dans les cellules dendritiques, on a les mécanismes de reconnaissance de l'ADN viral, mais il ne semble pas être réglé d'une manière suffisamment adaptée pour reconnaître l'ADN du VIH1. On pourrait faire le pendant, donc ça c'est un peu des spéculations sur la base de travaux récents, on pourrait imaginer également que le réservoir viral, donc ce qui vous a été présenté par Moncef, pourrait également être une forme de négligence, parce que finalement ce qu'il nous montre, c'est qu'il existe un réservoir viral qui est marqué par des molécules type CD32A. Donc il existe bien des choses qui permettent de reconnaître ce type de réservoir. Et pourtant, naturellement, le système immunitaire ne semble pas capable de distinguer ce type de cellules. Donc est-ce qu'il y a négligence du système immunitaire par rapport à ce type de cellules ? Et quelles sont les raisons pour lesquelles l'hôte aurait intérêt à les négliger ? Et puis le dernier exemple, c'est Alain l'a également mentionné, c'est ce qui se passe dans les centres germinatifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien du tout. Pourquoi le virus, et même chez les contrôleurs, est capable de répliquer toujours dans les centres germinatifs ? Pourquoi les TCD8 ne vont pas dans ces centres germinatifs ? Il semble y avoir, encore une fois, une négligence de la présence du virus à cet endroit, donc peut-être elle procure des avantages sélectifs. Donc ce qu'on propose, c'est que la réponse immunitaire insuffisante résultant de la négligence ne requiert pas de mutation virale d'échappement ou de facteurs antagonistiques viraux, et qu'elle pourrait contribuer à une réponse immunitaire insuffisante. Plus largement, maintenant, on connaît d'autres travaux, bien sûr, de nombreux laboratoires, je n'ai pas présenté ça aujourd'hui, Alain en a beaucoup parlé, ont impliqué l'immunité innée dans tout un tas de mécanismes, et puis, bien évidemment, il y a le côté clair et le côté obscur de ces mécanismes. Ce que je vous ai présenté, c'est que l'échappement à ces mécanismes de reconnaissance de l'immunité innée probablement fait que la réponse immunitaire est moins bonne, et on veut les stimuler, mais selon le type cellulaire, selon le contexte, On a également des exemples à l'inverse où une surstimulation de l'immunité innée dans d'autres types cellulaires peut au contraire contribuer à la pathogénèse et contribuer à la mort des cellules infectées. Et donc on comprend maintenant qu'il existe tout un tas d'exemples de ces mécanismes dans les différentes cibles du virus qui sont CD4+, bien sûr les lymphocytes TCD4, les cellules dendritiques, donc c'est ce que je vous ai présenté, un sous-type de cellules dendritiques qui sont les DC plasmacytoïdes, et puis également les macrophages. Voilà, et pour conclure, donc, je veux conclure sur le VIH2 et peut-être un petit peu poser les jalons de nouvelles questions qui nous intéressent. Donc, ce qui semble ressortir, c'est que le VIH2 est probablement un bon modèle pour comprendre comment induire des réponses immunitaires efficaces dans l'infection par le VIH1. Il est encore nécessaire de comprendre comment la cellule dendritique reconnaît le virus. Je vous ai parlé de CEGAS, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je vous ai dit que la capside était impliquée, et donc on est très intéressé de comprendre comment la capside joue un rôle. Comment la réponse immunitaire inhibe le VIH2? Donc ça, c'est, je pense que c'est aussi une question fondamentale. On voit que les patients contrôlent l'infection, pourtant ils ont un réservoir proviral, il y a de l'ADN, mais pourtant ils ne transmettent pas leur virus. Quels sont les mécanismes effecteurs qui permettent d'inhiber le VIH et d'inhiber sa production? C'est encore des choses qui sont mal connues. Comment penser le réservoir viral dans le contexte du VIH2? Et puis enfin, comment développer un produit thérapeutique ou vaccinal qui pourrait se baser sur ce type d'études? Donc ça, ce sont des choses qu'on effectue au laboratoire. Voilà, et donc je vais simplement illustrer avec ma dernière salle l'équipe avec laquelle je travaille, à l'Institut Curie, donc juste à côté rue Laumont. Et puis bien sûr, simplement dire que de très nombreux collaborateurs ont contribué à ce travail que je n'ai pas listé ici. Merci.